Oh là là, celui-là avec sa musique.
Ça vous gêne la musique?
Ça me gêne pas, ça me casse les pieds.
Décibels.
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 Décibels, c'est l'apéro radiophonique quotidien de PFM 99.9.
Actu concert, nouveautés musicales, invités, cadeaux à gagner.
Et aussi un peu d'actu social et culturel.
Décibels, une émission collective proposée par les Animos de PFM.
Du lundi au vendredi, de 18h30 à 19h.
2.
Et bienvenue dans Décibels hein, sur PFM 99.9. Enfin, si vous nous rejoignez maintenant, donc émission, on est en compagnie de Suzanne Letombe, donc qui, on va parler expo et expo au travers de la montagne. Donc on en reviendra. Bonjour Suzanne.
Bonjour.
Alors d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce qu'on peut un peu évoquer ton parcours? Donc on sait que tu fais partie, tu as été étudiante à l'université d'Artois et tu as travaillé aussi au service culturel de l'université d'Artois. Tu peux nous expliquer un petit peu?
Oui, alors je n'ai pas commencé par l'université d'Artois, je suis d'abord allée à l'ESAT à Roubaix, donc c'est l'école supérieure d'art appliqué et du textile. En fait, je voulais déjà bosser un peu dans la création, faire des choses avec mes mains. Je me suis rabattue quand même vers les études plus classiques, entre guillemets. Je suis allée en lettres modernes à l'université d'Artois et pour ensuite découvrir le milieu culturel qui m'a toujours assez fascinée. Et j'ai fait un master de direction d'établissement culturel pour ensuite bosser dans différentes assos du bassin minier pour ensuite, enfin, arriver à la direction du service vie culturelle et associative à l'Université d'Artois. Et finalement, en fait, dans toutes ces expériences, j'ai appris à organiser des événements, faire des programmations avec des spectacles, des expos, des concerts, beaucoup de choses différentes. Et donc ça m'a permis de garder, d'être toujours dans ce milieu culturel finalement. Et en fait, en parallèle de mon travail, j'ai toujours gardé une pratique artistique qui a toujours été importante finalement dans ma vie et dans mon parcours. Après, quand j'ai quitté l'université d'Artois, j'ai eu envie de me lancer, d'essayer en tout cas, de devenir illustratrice, artiste à mon tour finalement, après avoir accompagné des projets pendant quelques années. J'ai eu envie d'essayer.
Et alors, quelle expérience tu retiens justement de ce travail, on va dire, au service culturel de l'Université d'Artois? Ça t'a complété dans quelque chose ou finalement c'était juste un job?
Alors non, c'était pas juste un job. Toutes les expériences que j'ai eues, dont l'université, ça m'a donné aussi des compétences que j'ai pas apprises pendant mes études, en fait. Hein. Tout ce qui est travail d'équipe, l'administratif aussi, hein, forcément, ça fait partie de tout ça.
J'imagine, oui.
On ne peut jamais passer à côté des missions administratives. C'est l'important, c'est aussi toutes les rencontres humaines, en fait, parce que à l'université, il y a évidemment rencontrer les artistes qu'on programme, que ce soit pour les spectacles, les concerts, les expos, toutes les actions culturelles qui se passent à l'université. Ce qui prend aussi beaucoup de place, mais positivement, hein, c'est toutes les relations avec les étudiants, en fait, parce qu'il y a beaucoup d'accompagnement pour les associations étudiantes. Pour la mise en place de projets aussi avec les étudiants. Y a aussi tous les partenariats aussi qu'on met en place pour la programmation culturelle et associative du service. Tout ça, ça nourrit tout le temps, en fait. Hein, tous ces échanges, toutes ces découvertes. Et forcément, on grandit aussi avec tout ça, avec tout ce qui se passe, et on réfléchit sur ce qu'on veut faire, on vit, quoi.
Donc maintenant, du coup, tu es illustratrice et plasticienne, Et on va parler de cette fameuse expo qui se déroule et où s'est déroulée, hein, puisque c'est jusqu'au 30 janvier, hein, c'est bien ça.
Oui, c'est ça.
Tu peux nous dire le lieu, tu peux nous rappeler le lieu?
Oui, alors c'est l'espace de vie sociale Joséphine Baker. Mm-hmm. C'est place Mère Teresa à Arras, c'est derrière la clinique des Bonnettes.
Oui, donc à Arras Ouest.
Voilà, c'est ça.
Ok. Eh ben, tu peux nous raconter un petit peu cette expo, puisque là, tu évoques la montagne. Alors, c'est un grand sujet. Ton rapport à la montagne, d'abord?
Alors, la montagne, c'est tout un historique pour moi, parce que, en fait, dès toute petite, je faisais des randonnées avec mes parents, dans le Cantal, surtout, Auvergne, de manière plus générale. Et voilà, c'est vraiment l'activité familiale des vacances. Quand on est enfant, ado, on traîne un peu des pieds parce que l'été, on préfère aller à la plage avec les copains, quoi. Mais n'empêche que c'est une activité que finalement j'ai gardée plus tard, que je fais encore. Et ça évoque beaucoup de souvenirs en famille, entre amis. Et puis, la montagne, nous, par ici, à part les terris, voilà, c'est...
J'allais l'évoquer, mais tu en parles, donc voilà, c'est pas les mêmes montagnes. Hein,
c'est pas les mêmes montagnes. Alors après, voilà, les terris, on est bien content de les avoir pour avoir un peu de relief, mais quand on va dans le Massif central, dans les Alpes, dans les Pyrénées, pour parler de la France, on a quand même plus de relief, plus de paysages lointains. C'est des paysages qui m'ont toujours beaucoup touchée, qui m'ont beaucoup ressourcée aussi et qui me ressourcent encore beaucoup. Ce besoin de se sentir minuscule face à cette immensité, mais en même temps d'avoir la fierté aussi d'arriver au sommet d'être tout en haut, quoi.
Alors cette expo, évidemment, elle évoque les montagnes au travers de gravures, de dessins, de photos, mais aussi des textes autour des montagnes. Alors tu peux nous expliquer un petit peu comment tu t'es inspiré de tous ces reliefs, comme tu disais justement.
Alors je sais pas trop par où j'ai commencé, mais quand j'ai repris beaucoup le dessin, quand j'ai commencé la gravure aussi, parce que c'est là qu'en fait c'est d'où ça vient. Je me suis tout de suite orientée vers les montagnes. J'avoue que c'est vraiment, j'ai pas trop réfléchi quoi. Je suis tout de suite allée là-dedans. Ça vient un peu au gré des envies aussi. Hein. C'est dans l'expo, il y a beaucoup de photos de montagnes, de gravures que j'ai faites à partir de photos. Donc encore une fois, finalement, cette histoire de souvenirs. Hein, c'était en plein hiver et je regardais mes photos de vacances et je me dis j'aimerais bien essayer de le faire, voir un peu ce que ça donne en gravure, en dessin, en collage Et du coup, je me suis lancée à commencer un peu cette expo qui, finalement, s'est étoffée aussi au fur et à mesure qu'elle a été exposée. Parce qu'en fait, la première fois que j'ai montré des premières pièces, c'était au Raperché en mai 2024.
Au Raperché qui n'existe plus, hein, qui était un café citoyen et solidaire d'Arras, assez célèbre quand même, hein, donc on peut l'évoquer, ouais.
Il y avait quelques pièces, mais c'était pas une très très grande expo, quoi. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai rajouté des pièces. Au fur et à mesure des occasions aussi et des envies, parce que ça mélange plein de techniques. Il y a beaucoup de gravures, mais il y a différentes techniques de gravure dans l'expo.
Tu peux peut-être nous expliquer un petit peu comment tu travailles justement. Ouais. Ces gravures.
Alors, j'ai commencé avec de la linogravure.
Alors, là, il faut expliquer quand même. Hein,
Alors, la linogravure, c'est une technique de gravure en relief, donc ce qui va très bien avec les montagnes, justement. Et en fait, on vient graver une plaque de linoléum, donc... on peut utiliser le lino du sol, hein, ça marche aussi pour faire de la récup. Et on vient graver avec des gouges, donc c'est des sortes de cutters un peu incurvés. Et en fait, on vient enlever de la matière pour mettre du... En fait, on enlève de la matière et l'encre vient se mettre sur ce qu'on n'a pas gravé, donc sur les reliefs. d'où la gravure en relief. Et il y a aussi dans l'expo des gravures en taille douce ou gravures en creux. Où là, pour le coup, on vient graver avec une petite pointe, un peu comme une pointe de compas ou une pointe de clou sur une surface. Alors ça peut être sur du cuivre, sur du plastique. Et là, pour le coup, l'encre vient se mettre dans les creux. C'est l'inverse de la linogravure. La linogravure, en fait, on connaît bien cette technique-là, dans le sens où c'est la même technique que pour faire des tampons. Donc, je ne sais pas si vous avez un tampon PFM, eh ben, c'est sans doute fait en linogravure, peut-être sans doute plus industriel, mais c'est la même technique.
Ok. Eh ben, alors, du coup, tu évoques aussi des émotions, comme tu le disais tout à l'heure, des liens. Et en même temps, tu t'inspires aussi des refuges, des rivages. T'as peut-être des anecdotes à nous raconter sur tes voyages en montagne ou tes pérégrinations, on va dire, montagnardes.
Oui, j'en ai une en particulier. Avec ma sœur, on a eu envie de faire découvrir un peu à des amis ce que c'était de faire une randonnée en montagne sur plusieurs jours. On a peut-être un peu vu grand pour commencer avec des gens qui n'avaient jamais fait de randonnée. On est parti sur 4 jours, en fait, avec vraiment tout ce qu'il fallait dans le sac à dos. On dormait justement dans des refuges. Alors, dans le Cantal, les refuges, c'est des anciens burons. Donc, c'est des sortes de petites maisons en pierre pour les bergers, mais bon, qui ne sont plus utilisées pour les bergers maintenant, qui sont utilisées comme refuge. Et en fait, le 4e jour et dernier jour du coup de notre périple, en fait, on avait une carte hygiène qui était un petit peu dépassée.
Et alors, carte hygiène, tu dis ?
Hygiène, c'est les cartes de montagne. Ah, oui, c'est les cartes... Les cartes en papier, quoi.
D'accord, ok.
C'est l'ancêtre du GPS. Et donc, on avait une carte hygiène qui était un peu dépassée. Et donc, il y avait un chemin qu'on avait repéré sur Internet qui n'existait pas sur la carte hygiène. Donc, en fait, normalement, ce jour-là, comme c'était le dernier jour du périple, on était censé marcher 6-7 heures maximum. Mais comme on n'a jamais trouvé le chemin sur la carte, et... dans le réel, eh ben, au lieu de marcher 6 heures, on a marché 12 heures. Voilà, pour finir 4 jours de marche dans le Cantal. Donc, les copains, ils s'en souviennent. Hein. Et puis, je ne suis pas sûre qu'ils aient refait des randonnées depuis. Mais voilà, c'est un souvenir, une anecdote. Voilà, maintenant, on en rit, hein, heureusement.
Et c'est une question qui me vient aussi à l'esprit. Est-ce que tu as constaté au fil justement de tes randonnées en montagne que écologiquement, il y a quelque chose qui s'est passé aussi, des règlements climatiques, etc.
Alors oui, en fait ça dépend où. C'est vrai que voilà, moi je parle beaucoup du Cantal et de l'Auvergne. Hein, en fait, alors pour le coup c'est moins au niveau climatique, mais en fait à une époque quand on était au sommet de la montagne, on voyait juste les paysages à perte de vue, des petits villages, mais vraiment tout petits villages. Maintenant, selon où on va, on peut encore voir des parkings remplis de voitures en bas. Voilà. Donc, on est moins dans le côté sauvage, nature à fond, quand on est en haut, quoi, quand on est au sommet. Après, ça dépend les zones, hein, parce qu'en fait, finalement, dans le Puy-de-Dôme, c'est beaucoup ça maintenant. Mais dans le Cantal, on a encore quand même ce côté préservé, ce qui est quand même assez agréable. Et après, les randonnées, c'est quand même une activité très liée à la nature, finalement. Hein, c'est très rare qu'on ait des manifestations de manque de respect envers la nature en montagne. Il n'y a jamais de déchets qui traînent ou quoi, parce que les gens qui font de la randonnée, en général, font attention. Donc, ça préserve aussi, finalement... l'environnement, quoi.
Puis, j'imagine qu'il y a des guides ou des gardes forestiers peut-être qui aussi...
Oui, je pense, ouais.
Ok, bon. Au niveau faune, flore, est-ce que tu as constaté qu'il y avait des choses qui étaient... qui ont changé ?
Alors, pas forcément. Peut-être au niveau de la flore un petit peu quand même.
Ouais.
Mais au niveau de la faune, on traverse encore des...
T'as rencontré des ours, des loups ?
Alors non,
je rigole,
des ours, des loups, non. Alors quoique, quand même, si, dans les Pyrénées, une fois, on s'est retrouvés face à des vautours.
Ah oui.
Et moi, les seuls vautours que j'avais vus, c'était dans Lucky Luke, quoi. Donc, on n'avait jamais vu en vrai. Et ben, c'est très, très grand, des vautours.
Ah oui, oui. Non, mais
je ne pensais pas que c'était aussi grand. Non, mais sinon, après, ça arrive souvent qu'on traverse... des troupeaux de vaches, de moutons et tout ça. Alors bon, les troupeaux de vaches, c'est un peu impressionnant quand même. Quand on passe au milieu, on a un peu peur qu'ils commencent à charger, quoi. Mais en même temps, ils ont l'habitude.
Ouais.
Voilà, donc c'est tant mieux pour nous. Après, il faut quand même faire attention parce que quand il y a des chiens qui gardent les troupeaux, eh ben,
faut pas s'approcher trop près, quoi.
Ouais, voilà. Ouais, ouais, ils peuvent facilement être agressifs, mais en même temps, bon, ils font leur boulot aussi de garder les animaux, quoi. Donc voilà, il faut garder aussi ce respect-là de bah non, on ne va pas aller caresser le chien qui est en train de bosser, quoi.
Ok, avant de reparler un petit peu de ton expo, hein, qui a voyagé aussi pas mal apparemment, mais qui peut-être va voyager encore, et puis d'autres aspects de tes techniques aussi pour cette expo, tu m'as proposé donc une pause musicale et tu peux nous expliquer un petit peu le titre que tu as choisi.
Alors du coup, c'est Estrada de Dom la Nena. Alors Dom la Nena, c'est une violoncelliste. Peut-être que vous la connaissez avec Birds on a Wire.
Ah oui, oui, oui. Ah oui, d'accord.
Voilà, okay. Le duo avec Rosemary Stadley.
Exact.
Et en fait, j'ai découvert ce groupe au Tandem il y a quelques années. Je ne saurais plus dire l'année, mais c'était il y a quelques années. Et elles font beaucoup de reprises. Voilà. Et c'est vraiment une musique qui me touche beaucoup. Donc Dom la Nena, qui est violoncelliste, du coup, dans ses projets solo, c'est forcément avec beaucoup de violoncelle. Et c'est un instrument que j'aime vraiment beaucoup. Et si j'ai choisi ce titre, c'est parce que parfois quand je l'écoute, en fait, je ferme les yeux et je vois des montagnes. En fait, je m'imagine dans le paysage. C'est assez apaisant en fait comme titre. C'est très calme, mais en même temps, on peut s'imaginer marcher, gravir la montagne et arriver au sommet.
Enfin, c'est une bonne définition. Et on écoute ça tout de suite. Donc. Et puis on se retrouve juste après pour terminer l'émission avec encore des choses que tu vas peut-être nous dire sur ton expo. Thank you. donc Dom La Nena avec ce titre Estrada, et c'est vrai que le violoncelle se marie très très bien avec le milieu de la montagne, là, je confirme. Alors, tu utilises également de l'aquarelle, de la craie, du collage photographique et des dessins numériques. Tu peux nous parler un petit peu, pour terminer cette émission, des techniques que tu utilises donc, au travers de ces différentes techniques. Voilà.
Oui, en fait, c'est vrai que moi, j'ai jamais trop eu envie de me spécialiser dans une technique en particulier, même si la gravure prend beaucoup de place quand même dans ma pratique, surtout depuis que, en fait, je suis élève à l'école d'art de Douai en gravure, donc je n'arrête pas de découvrir des techniques qui font que j'ai envie d'aller toujours plus loin quand même. Mais je garde quand même d'autres techniques. J'ai toujours envie de tester plein de choses, en fait, et donc je veux surtout pas me spécialiser dans quoi que ce soit pour l'instant, en tout cas. Et encore une fois, voilà, c'est un peu au gré des envies aussi. Hein. Parfois, j'ai une idée et je me dis, je préférerais le faire en aquarelle ou en craie ou en peinture aussi. Là, je commence un peu la peinture depuis quelques temps. Et c'est selon les projets, en fait. Je travaille beaucoup avec le collectif Cri de l'Aube, qui est un collectif de théâtre à Rajoy. Enfin, je dis théâtre, mais finalement, les pratiques, avec les différents membres qui arrivent progressivement, les pratiques se diversifient de plus en plus.
Ouais, c'est pur et artistique, en fait.
Voilà, c'est ça. En fait, là, moi, maintenant, quand je bosse avec le collectif, je fais beaucoup de scénographie et donc d'où la peinture. C'est grâce au collectif que j'ai commencé à faire des très grands formats en peinture. Et donc, c'est dans la recherche, finalement, que je teste des techniques. Là, la semaine dernière, j'ai fait du plâtre. Voilà, je teste un peu de tout et j'aime beaucoup ça. Et après, c'est vrai que j'ai commencé aussi pas mal le dessin numérique parce que je commence un peu à illustrer des livres. Alors, encore une fois, j'ai commencé avec le collectif. Le collectif a fait trois livres autour de témoignages d'habitants de quartiers prédéfinis. J'illustre ces témoignages. Donc là, j'en ai fait deux sur les trois. Et aussi, grâce à ce travail-là, j'ai aussi trois communes qui se sont rassemblées pour un projet intercommunal, pour un road trip culturel, qui m'ont demandé du coup de faire une sorte de carnet de voyage de ce road trip. Et en fait, là, pour le coup, le dessin numérique, il est assez pratique parce que, en fait, pour l'impression du livre après, au moins tous les dessins, ils sont déjà numérisés. Donc c'est quand même très pratique dans les usages. Et puis maintenant, y a des applis aussi qui font qu'on peut avoir un effet crayon de bois, un effet pinceau, un effet aquarelle, finalement, sur une tablette, quoi.
C'est vrai que il y a le fait que tu as du papier, tu as des crayons ou des craies ou est-ce que tu... du coup, c'est une question qui me vient à l'esprit aussi. Est-ce que l'intelligence artificielle, l'IA, te sert aussi dans ce que tu es en train de pratiquer ou pas du tout ?
Alors, pas du tout. J'avoue que ça ne m'est même jamais venu à l'idée d'utiliser l'intelligence artificielle. Je ne dis pas que ça n'arrivera jamais, parce qu'on ne peut pas savoir. Mais en fait, c'est un outil qui m'intéresse pas du tout dans ma pratique, en tout cas. Pour des questions écologiques et sociales, j'avoue je n'ai pas très envie de l'utiliser.
Voilà. Ouais, j'imagine. C'était pour ça aussi que je t'emmenais sur ce terrain, mais parce que c'est vrai que il y a pas mal de polémiques en ce qui concerne donc l'intelligence artificielle et ce qu'on en fait et comment on s'en sert et comment on l'aperçoit surtout. Pour terminer donc ton expo donc a lieu jusqu'au 30 janvier. On rappelle à l'espace Joséphine Baker donc à Arras Ouest. Est-ce qu'elle a voyagé déjà ailleurs et est-ce qu'elle va encore voyager?
Alors, elle a déjà voyagé ailleurs parce qu'elle est allée au Toit commun à Lens, est aussi un lieu d'économie sociale et solidaire. Elle est allée au Perchoir, le tiers-lieu de l'association Donep. Mmh. Elle a été au Rat Perché aussi à ses débuts, à ses tout débuts. Là, pour l'instant, je n'ai pas de nouvelle date pour cette expo. Par contre, je serai à la galerie L'Œil du Chat au mois de juin avec une autre illustratrice arrageoise. Et aussi sur des expositions collectives à Douai, Denain et Cambrai, avec les différentes écoles d'art de ces villes. Donc je participerai à des expositions organisées par ces villes-là.
Tu as déjà les dates ou...
Alors, à Denain, ça sera autour du 26 mai. On n'a pas encore les dates précises, mais en fait, le 26 mai, c'est la fête internationale de l'estampe. Donc, c'est un gros événement de gravure. Et du coup, à l'école d'art de Cambrai, je pense que ça sera à peu près dans ces eaux-là aussi. Avec tout ce collectif de graveurs et graveuses, on va aussi exposer à Belle-Île-en-Mer au mois de juillet.
À Belle-Île-en-Mer, ça voyage loin.
Oui.
Ok, on se tient au courant et puis tu nous diras exactement comment ça s'est passé et les retours que tu as évidemment sur cette expo. Et puis l'heure tourne et il nous reste à peu près 3 minutes avant de revenir sur la programmation habituelle de BFM. Et du coup, je propose qu'on se termine en musique. Moi, j'ai choisi un titre de Vanessa Wagner, je ne sais pas si tu connais.
De
nous. elle se réapproprie Philippe Glass avec une étude numéro 16, Figure of Glass. Et je trouve que ça peut bien se marier avec aussi le climat montagnard. Voilà, j'en dis pas plus. Merci beaucoup, Suzanne, d'être passée dans les studios. Et on se tient au courant pour les prochaines expos que tu feras.
Merci beaucoup, avec plaisir.